Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une revue d'art, mais c'est juste un prétexte pour aborder un sujet plus important qui s'appelle, ou c'est plutôt l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Désinformation ». Alors, cette revue, c'est une revue élégante, mensuelle, artistique, qui parle donc de beaux-arts, de cinéma, de littérature. Et il y a une page qui est consacrée à une personnalité politique qui choisit un livre et qui commente ce livre dans le rapport que cette personne a à ce livre. Alors, il y a une députée socialiste européenne, qui est une jeune femme qui s'appelle Chloé Ridel, et qui est une énarque, voilà, quelqu'un de super diplômé, et qui prend comme livre fétiche 1984, le célèbre roman de Orwell, que on apprend d'ailleurs aujourd'hui dans les collèges et dans les lycées, et qui est effectivement un marqueur important, et elle parle que ce roman ait eu une influence importante sur elle à son adolescence, ce qui est très bien. Donc, ensuite, après avoir parlé de cela, elle fait un rapprochement avec l'actualité immédiate en tant que femme politique et elle prend Trump comme prétexte de son commentaire et en citant que dans le roman d'Orwell, il y avait la maîtrise du langage et des mots, puisque c'est le sujet de la littérature, et que le contrôle des mots et la réduction des mots était le propre de cette dénonciation totalitaire que fait Orwell, et qui a eu, comme l'on sait, un très grand succès, et qui continue de perdurer aujourd'hui. Donc, elle prend Trump et elle dit « Trump, quand il parle dans ses discours, il a un vocabulaire limité. » Alors là, si vous voulez, le passage de l'un à l'autre me paraît un peu abrupt, parce que il est vrai que Trump a une sorte de discours, j'en avais parlé dans une émission précédente, que l'on pouvait appeler en anglais le small talk, c'est-à-dire une espèce de commentaires de l'actualité, de lui-même, de la situation que l'on peut voir là actuellement avec la guerre en Irak, et qui, évidemment, est en rupture complète avec le discours politique en général, qui était dans une tradition d'éloquence, et on peut dire même de grandiloquence, bien souvent. Alors là, on est à l'opposé, et ce que j'avais dit dans une précédente émission, c'est que il y avait une sorte de, on peut dire, de prise en compte du changement d'époque avec celui de la jeunesse et avec les réseaux sociaux, aussi les messageries où on est habitué aujourd'hui avec TikTok, etc., à des commentaires brefs et on peut dire aussi des raccourcis souvent violents, mais en tout cas des raccourcis. Mais je veux dire, cela n'a rien à voir avec le ministère de la vérité qui contrôlait les paroles. Et dans le cas de Trump, on pourrait faire aussi le parallèle avec à l'opposé du spectre politique avec Jean-Luc Mélenchon, qui a aussi, à travers la parole, une grande, on peut dire, une grande maîtrise des réseaux. Et même si on peut dire que Mélenchon a des fois des grandes envolées lyriques à l'ancienne, il utilise le small talk avec des anecdotes, on fait rire le public, et c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans la politique. Alors évidemment, je ne fais pas de parallèle ou de rapprochement, mais simplement je cite la manière cela donc me surprend que l'on puisse faire le rapport entre le ministère de la vérité qui contrôle les paroles et le passage que l'on fait avec Trump, et puis elle parle de la... Je parle toujours de cette jeune députée qui s'appelle Chloé Ridel. Elle parle de l'Europe et de la désinformation, qui est le sujet de notre chronique d'aujourd'hui. Alors, elle dit là que, en tant que députée européenne, elle partage l'opinion de, certainement de la présidente, Madame von der Leyen, et de la Commission européenne, qui cherche à contrôler l'information, mais elle ne le dit pas comme ça. Elle dit que le but de la Commission européenne, c'est d'empêcher la désinformation. Donc évidemment, les choses sont inversées. On empêche les gens de désinformer. Alors ça suppose qu'il y ait une information qui est la vérité, le ministère de la vérité, et puis un opposé, des gens qui ont comme une mauvaise intention de faire un discours qui est à l'opposé de la vérité. Alors il faudrait rappeler aussi que deux choses, c'est que la première, c'est que la Pravda, qui était l'organe officiel du quotidien de l'URSS, s'appelait la Pravda, c'était la vérité. Il faut rappeler aussi à cette personne que le roman de 1984, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas une dénonciation du fascisme, mais du totalitarisme de l'Union soviétique, qui à l'époque était soutenu par un parti communiste très puissant en Europe, et cela avait valu à l'époque à Orwell, on peut dire, une mise à l'index de beaucoup d'intellectuels qui voyaient une critique du communisme qui était à l'époque encensé et qu'il a été pendant de nombreuses années. Donc c'est assez important aussi de faire ces rappels historiques que on a tendance d'oublier aujourd'hui. Alors, le problème était assez cocasse, puisque à partir de 1984, on était en train de justifier la politique de l'Union européenne, et on pourrait faire le parallèle avec aussi le président Macron, qui avait la volonté, là, il y a quelques mois, de labelliser les médias, les journaux, les chaînes de télévision et les radios, en leur donnant une labellisation qui serait, dans son esprit, établie par un cénacle qui est les Reporters sans frontières, mais qui est déjà très orienté sur un plan politique. Donc on allait donner des brevets de vérité, d'honorabilité à la fois, à travers une labellisation officielle. Alors il semblerait que ce soit tombé dans l'eau, parce que bon, il y a eu quand même, on peut dire, pas de grand enthousiasme de ce côté-là. Mais c'est quand même assez surprenant que l'on puisse utiliser justement ces dénonciations de l'information et puis aujourd'hui de vouloir avoir ce contrôle. Alors, et je vais parler dans la deuxième partie de ce qui nous occupe, c'est-à-dire de l'architecture, et je ferai quelques rappels qui ont été dits sur cette radio également, et de voir aussi comment la vérité peut être détournée, ou du moins interprétée. Évidemment, la question fondamentale, c'est que la vérité dans la lecture du temps, de l'époque et de l'histoire est toujours un débat d'opinion avec la nécessité de confrontation d'idées différentes et que ceux qui pensent détenir sur l'histoire, sur les opinions, sur la politique contemporaine une vérité me paraissent extrêmement dangereux. On fait une pause musicale et on reprendra sur l'architecture et la vérité. Alors nous allons parler de la vérité avec l'architecture, la manière dont elle est, on peut dire, publiée, commentée et utilisée aussi par la politique, évidemment, et par les journaux d'information. Alors, pour reprendre les émissions précédentes, j'avais parlé du musée des Augustins et d'une manière plus générale des musées et des constructions ou du moins des rénovations des constructions et constructions de ce type de bâtiments dédiés à l'art et qui prenaient des temps d'élaboration, de restauration très importants avec des fermetures dans le cas des musées qui me paraissaient aussi pas nécessaire et incongrue et aussi très fâcheuse pour les populations, puisque on empêchait les populations de voir les œuvres des musées. Alors quand il s'agit d'un bâtiment qui peut être remplacé par un autre, on peut dire on peut faire des transferts, je sais pas, d'une salle de sport à une autre ou des choses comme ça. Mais là, il s'agit de musées, donc on soustrait à la population un grand nombre d'œuvres. Dans le cas, par exemple, du musée des Augustins, c'est pendant 7 ans. Et il y a aussi une partie du musée qui est toujours fermée, ce qui me paraît totalement étrange et on peut dire scandaleux. Le musée Bonnat de Bayonne, c'est 17 ans. C'est absolument invraisemblable. Et le centre Pompidou est actuellement fermé pour 5 ans. C'est quelque chose qui est incompréhensible parce que on peut, ce qui est le cas des grands bâtiments publics, je l'ai déjà dit, on ne ferme pas les mairies, on ne ferme pas les hôpitaux, on ne ferme pas les écoles, on ne ferme pas les usines, les commerces, on les répare pas en quantité. Quand il y a besoin, ou pendant les week-ends, ou quand c'est fermé, ou alors on fait des rotations, certaines salles sont fermées, et on fait cela depuis certainement la nuit des temps. Donc pourquoi ferme-t-on les musées? C'est la question que je pose, et il n'y a aucune raison à cela, surtout quand on voit ce qui s'est passé au Louvre, où on a fait des nouvelles entrées, des salles d'apparat pour recevoir, et on n'a pas fait ce qui était nécessaire, c'est-à-dire la mise en sécurité du bâtiment. Et malgré des remarques qui avaient été faites par les commissions, la directrice du Louvre et aussi, on peut dire, les responsables, autres conseils d'administration et autres comités, n'a rien fait. Donc, il y a de ce côté-là, de la part de l'État, je pense, de grands manquements. Et je voudrais revenir à notre demi-lubie, direz-vous, si vous écoutez cette émission, c'est Notre-Dame de Paris. Alors, on revient sur la question l'information. Alors, l'information, et plutôt la désinformation, c'est d'avoir présenté l'accident de la cathédrale, évidemment, comme une catastrophe gigantesque, ce qui n'était pas le cas. C'était quelque chose de très spectaculaire, mais c'était la charpente qui a brûlé et non pas le bâtiment qui a été, comme on a pu le dire, détruit. Il n'avait pas été détruit. On n'avait pas eu donc besoin de le reconstruire. Les mots en français ont leur sens. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est l'unanimité totale à la fois des politiques, à la fois évidemment du premier intéressé, qui était le président de la République, qui a pris l'affaire en main et sous son autorité. La classe politique dans son entier s'est félicitée, majorité et opposition, de ce qu'avait fait le président de la République, et la presse, les journaux, la télévision, les radios, tout le monde a félicité, un peu comme dans l'histoire des beaux habits de l'empereur, que les habits de l'empereur sont beaux, et là c'était pas les beaux habits de l'empereur qui en fait n'existaient pas, mais c'était la cathédrale qui était reconstruite et qui ne l'a pas été. Puisqu'en fait, la cathédrale n'a jamais été démolie. On a fait tout un cinéma de dire ça menace de tomber, mais non, ça ne menaçait pas de tomber. La preuve, c'est que ce n'est pas tombé et que rien n'a été fait. Et on a fait, évidemment, un appel aux dons internationaux. Les dons étaient internationaux, mais il a fallu donc justifier le fait qu'on a fait un appel aux dons et qu'il fallait utiliser d'argent. Donc, on a fait durer en 5 ans ce qui a été considéré comme une prouesse et qui n'en était pas une du tout. Et on a fait aussi des choses qui n'étaient absolument pas nécessaires, c'est-à-dire d'aller chercher des chaînes dans toute la France, de les travailler à la main avec des outils anciens, ce qui est complètement aberrant, attendu qu'une charpente qui n'est pas vue, pourquoi dépenser autant d'énergie, d'argent pour en fait faire ce qui a été fait dans d'autres lieux, c'est-à-dire la cathédrale de Chartres, ce qu'auraient fait les constructeurs, les architectes du Moyen-Âge s'ils avaient eu ces outils en main, c'est-à-dire une charpente légère, métallique, anti-feu, et qui aurait été construite tout de suite et n'aurait pas demandé tout ce trafic qu'il a fallu faire et qui aurait évidemment coûté infiniment moins cher. Donc, comme je répète ce que j'avais dit, il y avait 15% de la voûte qui avait été abîmée. La voûte ne s'était pas effondrée, mais il y avait une partie, il y avait deux trous dans la voûte qui étaient dus à la chute de la grande flèche, bon, qui datait du 19e siècle, qui n'était pas dans l'histoire du bâtiment, qu'on aurait pu essayer de refaire d'après les dessins que l'on avait, la flèche d'origine, mais on a voulu refaire la chaîne, la flèche de Viollet-le-Duc, qui était un peu, on peut dire, surdimensionnée, certainement. Bon, on ne va pas faire un débat sur cela. Là où je voulais en revenir, évidemment, sur le problème de la désinformation. Comment a-t-on pu créer des comités de reconstruction de la cathédrale quand il s'agissait uniquement de nettoyage des cendres dues à l'incendie, on peut dire de reboucher une voûte, mais il n'y avait pas, ce n'était pas la voûte de la chapelle Sixtine, il n'y avait pas des fresques, donc il n'y avait pas des fresques sur les murs, donc il y avait à nettoyer l'essentiel du bâtiment, et on peut dire même la quasi-totalité, puisqu'en fait, la partie, on peut dire, du sinistre représentait que 1 à 2% de la surface du bâtiment. Les tours n'étaient pas touchées, le portail n'était pas touché, les sculptures essentielles non plus, et l'orgue non plus, enfin, bon, l'essentiel, les vitraux non plus, on peut dire, tout ce qui faisait la qualité, simplement, on pouvait faire ce que n'a pas manqué de faire les télévisions, c'est-à-dire des commentaires montrant les cendres avec une musique grandiloquente, mais tout cela c'était du mensonge, tout cela c'était de la désinformation. La réalité c'est que ça aurait pu être fait pour infiniment moins cher, dans un délai beaucoup plus court et sans évidemment toutes ces cérémonies où les grands de la terre entière sont venus pour l'inauguration et la réouverture où le président de la République était en majesté et applaudi par l'exploit qu'il venait de faire. Donc les mêmes personnes qui parlent de désinformation, personne n'a vu quelle avait été l'incroyable désinformation sur ce chantier qui a été qualifié de titanesque, de pharaonique. Et puis, pour en terminer sur les pharaons, j'avais répété, et je vais répéter ce que j'avais dit dans des émissions précédentes, c'est que le coût de la rénovation de Notre-Dame, c'est-à-dire on a nettoyé, après un incendie, refait une charpente que personne ne voit, ainsi que la toiture, et on a donc réparer la voûte, et tout cela pour le coût du nouveau musée du Caire qui vient de réouvrir, qui est un bâtiment gigantesque qui abrite évidemment les grandes œuvres de cette civilisation, et que le coût de la construction de ce bâtiment, que l'on peut voir en photo, en documentaire, que vous avez sur les réseaux également, et un bâtiment fait par des architectes américains, est un bâtiment qui a coûté la même somme que le coût de la rénovation de Notre-Dame de Paris, et non pas de la reconstruction. C'était Où vivrons-nous demain ? Avec toujours Sacha à la technique.